Bon, sur Radio Canu, alors nous avons entendu à l'instant c'était Bébé Doc avec le morceau Délivresse, juste avant c'était Babylon Circus avec le morceau Paul, et nous poursuivons avec Oberkampf, une petite reprise.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Idée Noire, donc de retour sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, Idée Noire, donc de retour de congé, et on va reprendre toutes nos habitudes habituelles.
On va essayer.
Allez, on va repartir avec le générique. Eh bien voilà, donc rebonsoir à toutes et à tous, c'est Idée Noire, donc de nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et
on va démarrer comme d'habitude avec des petites annonces, c'est ça?
Au moins une. On a une petite annonce, puisque ça nous concernera directement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est un petit peu individualiste quand même, ça, ce que je viens de dire là, donc on va oublier. Donc ça sera pour ce vendredi 9 septembre, donc à la Plume Noire, 8 rue Diderot. Figaro dans le premier arrondissement. C'est une soirée qu'on vous propose, une soirée de rentrée plume, voilà, pour faire vivre un petit peu notre local, hein, toujours, hein, toujours qu'il y a besoin d'avoir du monde dans ce local, et puis d'amener un petit peu aussi de soutien. Alors c'est une soirée de soutien, donc, disais-je, et de présentation de nos activités à venir, passées d'ailleurs aussi, hein, on n'oublie rien, avec nos commissions hein, qui seront rappelées, qui seront même expliquées en long, en large et en travers. Et il y aura également un repas à prix libre, puisqu'on sait faire, on sait joindre l'utile et l'agréable. Donc, repas à prix libre. Il y aura un bar, évidemment, avec ses boissons gazeuses habituelles, là, n'est-ce pas ? Je ne les citerai pas. Il y aura également, parce qu'on sait tout faire, un concert avec le groupe Les Préchaunes. Je ne sais pas si je
prononce
bien.
Vous avez sûrement entendu, hein, déjà, ouais. Soit à la plume, soit ailleurs. Pas mal c'est, du tout. Du coup, t'as le style, c'est ça ?
C'est du folk irlandais. C'est du folk irlandais. Et comme on se refuse rien, il y aura également un DJ, Mix Toad.
Voilà, quelqu'un qui va venir mixer un peu pour nous aussi, un camarade.
Voilà. Alors, l'entrée est à 19h. Déjà, notez ça sur vos agendas. Donc, entrée à prix libre, évidemment. Pour, évidemment, tout va pour le fonctionnement donc, de la librairie autogérée La Plume Noire, qui, je rappelle, est toujours gérée par les militants et militantes de la CGA, la Coordination des Groupes Anarchistes. Alors, je tiens à préciser quand même que ceci n'est pas le pot de rentrée, quand même.
Oui, voilà. Enfin, voilà. Du coup, on fait une activité là, CGA, voilà, parce que du coup, il y a les camarades qui ont tenu pas mal de tables de presse, notamment au niveau des facs, et du coup, il y a beaucoup de contacts qui ont été pris. Donc voilà, c'est une soirée pour présenter un petit peu l'activité politique de la CGA avec ses fronts de lutte et ses commissions. Et le pot de rentrée, du coup, parce qu'on en parle de la librairie, ce sera un tout petit peu plus tard dans le mois. Ce sera le 17 septembre, voilà. Du coup, voilà, aux alentours de 18h, 19h. Et ce sera couplé avec une activité, du coup, parce qu'on va recevoir des personnes qui gèrent le site Notre École. Donc, Notre École, c'est N'AUTRE, École. Voilà, sur un peu la pédagogie un peu alternative. Donc voilà, donc il y aura au moins 2-3 personnes qui viendront nous présenter le site et puis avoir une discussion après sur justement cette les différents types de pédagogie alternative. Voilà, donc ce sera en milieu d'après-midi vers 16h sûrement, suivi du coup du pot de rentrée de la librairie et peut-être avant, mais ça on n'a pas encore... On n'a pas organisé tout ça, peut-être un repas de quartier place Colbert le même jour, un peu avant. Donc voilà, donc ça fera une grosse journée le 17.
Le 17 septembre, donc voilà. Des bonnes dates, donc, en fait, pour nous retrouver tous, voilà, devant même un verre,
oui,
discuter,
voilà, ouais.
Hein, les projets, etc. L'année s'annonce chaude, quand même.
Voilà, puis la semaine prochaine, on parlera forcément de la manifestation, mais on peut déjà causer un tout petit peu au niveau des annonces, qui sera donc le jeudi 15 septembre, à départ à 11h à la Manu des Tabacs, du coup, voilà, avec toujours cette demande de maintenant pas plus de. C'est plus non à la loi travail, maintenant c'est abrogation de la loi travail, vu qu'elle a été votée, enfin votée non, ouais. Elle a été au forcing, passée à l'Assemblée, décret d'application pour la plupart sont passés cet été, donc du coup, maintenant le combat continue, notamment contre cette loi-là, mais contre tout ce qu'on nous impose depuis quelques années. Et aussi pour commencer à faire émerger aussi une autre voie, parce que vous savez tous qu'il y a les élections présidentielles en fin d'année, on en reparlera dans les émissions qui y viennent, mais voilà, pour aussi faire entendre une autre voie, une autre solution que ce système de représentation, bah, de toute façon, qui bafoue les libertés et qui fait que de la casse sociale. Donc voilà pour les annonces, on rappellera du coup pour la manif la semaine prochaine, et puis on refera un petit point en fin d'émission pour voilà, penser tout ça. Puis on va vous lire un premier communiqué, alors on va faire un peu d'autopropagande pour cette première émission, mais voilà, autant on a pris une petite pause estivale pour se reposer de cette fin d'année très fatigante, autant on s'est mis au boulot assez vite, voilà, en rentrant. Et donc du coup, un premier communiqué, il y en a eu 3 de sortie là en quelques jours par la CGA Lyon, et donc du coup je vais lire le premier, donc c'était par rapport à la situation de Jacqueline Sauvage. Voilà, le communiqué s'appelle « Solidarité avec Jacqueline Sauvage ». Le 3 février 2016, la coordination des groupes anarchistes publie un communiqué intitulé « Grâce partielle de Jacqueline Sauvage, les femmes ne doivent plus subir en solidarité avec celle-ci ». Nous nous félicitions à l'époque de cette grâce partielle qui était le résultat d'une mobilisation féministe importante et payante dont le signal était « Les femmes vivant des violences sexistes sont légitimes à ne plus subir, à ne pas se laisser faire ». Nous savions aussi que le parcours était encore long et semé d'embûches pour sa libération et que la grâce partielle était entre guillemets symbolique et ne donnait pas à Jacqueline Sauvage le droit à la liberté. Surtout, cette grâce maintenait les décisions de justice qui l'ont condamnée pour entre guillemets meurtre aggravé sans tenir compte des sévices subis par elle et ses filles. Cette condamnation légitimait et renforçait par cette décision le système de domination patriarcale car caractérisée par le pouvoir que les hommes exercent sur le corps et les vies des femmes. Malgré un comité de soutien important et actif, sa demande de libération a été refusée par le tribunal de Melun le 12 août dernier, sous des prétextes laissant peu d'espoir sur une future libération. Elle aurait besoin d'aide psychique, entre guillemets, pour remettre de l'interdit dans le passage à l'acte. Et c'est à cause de la médiatisation de son affaire et du nombre de soutiens que ce refus de libération est argumenté. Voilà, l'un des arguments du juge, c'était de dire qu'il y a tellement eu un comité de soutien qu'elle ne se rend pas compte de la gravité de son geste et que du coup, il faut qu'elle reste encore un peu en zonzon pour réfléchir à tout ça. Donc une fois de plus, toutes les violences subies par Jacqueline Sauvage sont niées, renvoyées au second voire au troisième plan. Le message de la justice française est clair, bourreau, continuez librement de battre vos femmes et si jamais elles se retournent contre vous, le système judiciaire saura les remettre à leur place et renforcera aux yeux de toutes la domination masculine. Cette domination masculine ne s'exerce pas que dans les tribunaux, mais dans toute la société, en opprimant les femmes, en démolissant la vie de très nombreuses d'entre elles, que ce soit par l'exploitation, le harcèlement, par toutes les violences, par le viol et par le meurtre. Pour contrer ce système de domination, nous devons nous mobiliser au quotidien pour que toutes les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, soient pointées, dénoncées et combattues dans la sphère publique, c'est-à-dire dans la rue, le travail, les transports, etc., comme privées, dans la famille, le couple, les relations, etc. Face au patriarcat, des mouvements de lutte féministe sont nécessaires contre l'exploitation et l'oppression des femmes. Leur auto-organisation, par exemple, pour créer des espaces d'écoute, de soutien et de sécurité, pour s'entraider et se défendre face à toute agression, est un des moyens de lutte à développer et à soutenir. Le 10 septembre 2016, le comité de soutien à Jacqueline Sauvage appelait à un rassemblement sur Paris, mais en accord avec les avocates et la famille de celle-ci, celui-ci est annulé et le comité de soutien se fera discret entre guillemets jusqu'au résultat de l'appel. La CSG à Lyon suivra de près le résultat de l'appel et appellera un rassemblement de soutien à Jacqueline Sauvage et à toutes les victimes de violences patriarcales en cas de nouveau refus de libération. Et le communiqué se finit par libération immédiate de Jacqueline Sauvage, non à la criminalisation de l'autodéfense des femmes face à leur agresseur. Et on avait rajouté, suite à ce communiqué, un petit explicatif sur ce qu'était le patriarcat. Donc je vais le faire, il y a une dizaine de lignes, donc je vais continuer, puis après on fera une petite pause. Donc du coup, qu'est-ce que le patriarcat ? Donc il y avait une définition qui désigne... Donc le patriarcat désigne une formation sociale où les hommes détiennent le pouvoir, ou encore plus simplement, le pouvoir des hommes. Le patriarcat, c'est un système de domination des hommes sur les femmes qui se manifeste aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Il peut être considéré comme un ensemble des structures formelles ou informelles et des personnes ayant autorité dans ces structures qui concourent à l'oppression spécifique des femmes. Le patriarcat opprime et exploite les femmes en leur enlevant du pouvoir sur leurs conditions de vie ou de travail. Si on regarde vite les rapports de pouvoir dans notre société, on voit bien que ce type de domination et d'oppression perdure encore aujourd'hui, malgré l'adoption de lois condamnant certaines de ces manifestations les plus flagrantes ou proclamant l'égalité des deux sexes. Tous les jours, des femmes sont reprises avec des situations où elles sont marginalisées, discriminées, violentées et parfois même tuées par des hommes en tant que femmes pour diverses raisons. L'oppression patriarcale se manifeste aussi de façon moins brutale, entre guillemets, dans bien d'autres situations de la vie courante. Dans l'imaginaire populaire, le travail des femmes n'a toujours pas la même valeur que celui des hommes. Les tâches domestiques continuent d'être l'apanage des femmes. Les femmes continuent d'occuper la majorité des emplois au salaire minimum et des emplois à temps partiel. Et ce ne sont que quelques exemples. L'utilisation du thème patriarcat par les féministes et les proféministes rappelle que la place qu'occupent les hommes et les femmes dans la société n'est pas le fruit d'un quelconque déterminisme biologique ou d'un ordre naturel. Au contraire, la hiérarchie entre les sexes est une construction sociale et les théories naturalistes et biologisantes servent depuis déjà trop longtemps de justification à l'infériorité des femmes. Donc voilà, et si vous voulez en savoir un peu plus sur notre... opinion sur le sujet et sur le travail qu'on a fait, on a une motion antipatriarcale à la CGA que vous pouvez retrouver sur le site cga.org. Donc voilà pour la première petite partie de l'émission. Et on va poursuivre avec une petite pause musicale si ça marche. Autrement, on vous mettra autre chose. Oui. Voilà, c'est une petite musique issue d'une compilation de la CNT espagnole.
Triunfo total de la classe trabajadora. Hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás.
Somos un mundo nuevo en nuestro corazón, de la ley de justicia, de ciencia y sin poder, libertad en armonía, orden sin gobernar, bajo cielo un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea, libertad y apoyo al mundo y a la nación, luz nueva es la revolución, se acabará la explotación del hombre por el hombre. De la antigüedad se acabará la explotación por géneros o razas, terminará la discriminación.
voilà, vous êtes toujours donc à l'écoute d'Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et donc de mémoire, c'était Sindios qu'on a entendu, voilà, je crois bien. Et donc du coup, on va enchaîner sur cette deuxième partie. Tu
je te fais
confiance là-dessus, voilà.
Je te fais confiance.
Carrément. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie, puis une première, un premier jet de lutte sociale. Je crois qu'il y a un petit résumé estival à faire.
Oui, oui, une rétrospective d'avant les, enfin des vacances, puisque vacances de ça sera donc des luttes essentiellement du mois de juillet. Hein, il y en avait. Et ça a commencé, enfin du moins sur ce que j'ai pu récupérer, ça a commencé à Bordeaux avec une clinique du privé, la polyclinique de Bordeaux-Rive-Droite, 65% des salariés grévistes avec la CGT. Il n'y avait pas à chercher, là, parce que c'était le syndicat unique. 150 personnes, donc, en rassemblement sur la commune de Lormont pour des augmentations salariales. La direction propose un minable 0,6%, mais on verra que ce pourcentage revient régulièrement dans ces luttes pour les salaires. Même motif, même punition, c'est à Etup dans le Doubs pour la SNOP, Société Noiséenne d'Outillage de Presse, avec une grève pour les salaires, donc également revendication pour un plancher d'augmentation plus haut, donc 80 euros qui étaient demandés, même voire 110 euros qui étaient exigés par la CGT, quand la direction, ben, elle, offre 50 euros. Le même scénario s'était joué donc en 2015. Alors, pas fou et bien renseigné, ben, les travailleurs et travailleuses de la SNOP savent que les dividendes sont gras et que le chiffre d'affaires grimpe par leur travail, par leur production. Donc, le groupe de la SNOP a refilé 5 millions. Enfin, je précise que le groupe de la SNOP donc, a refilé 5 millions d'euros en 2015 et 2016 donc, à leurs actionnaires. Et redistribution, ont proclamé même les grévistes. À Marseille, c'est des femmes en colère cette fois avec les dames de ménage de l'entreprise Propéo qui bossent pour la chaîne hôtelière B&B. Et comme elles l'ont bien fait sentir, elles ont gagné avec le syndicat CNT SO, hein, qui s'est spécialisé donc dans cette branche de travail. Et également la CGT quand même qui s'est joint et Sud qui était là en soutien. Et même, on peut dire, Nuit Debout également, qui ont amené leur concours sur un piquet de grève devant l'hôtel de la Joliette. Un protocole de fin de conflit, puisque j'ai dit qu'ils avaient gagné, donc ça amène un protocole de fin de conflit qui a été signé avec les revendications obtenues. Et la liste était longue, hein, je vous le dis, je ne l'ai pas mis en... Je ne l'ai pas précisé là parce que c'était un petit peu long. Et il y a eu quand même 17 jours de grève, dont 10 seront payés. Alors même la Banque de France s'en est pris une grève, c'était à Rouen. On dit ici les collaborateurs, on ne dit pas les travailleurs à la Banque de France, hein, c'est quand même le niveau au-dessus. Donc on parle de collaborateurs et l'article donc, que j'ai récupéré dit aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de gréver et de manifester à la Banque de France, bien sûr, au siège donc, de la banque en Normandie, après l'appel de l'intersyndicale. 40 personnes ont participé, également à Caen et à Alençon, et autres communes normandes, lors d'un CCE avec le gouverneur, et je vous demande bien d'écouter son nom, ça m'a fait un peu sourire, François Villeroy de Gallo.
Un vrai.
S'il vous plaît. Hein ? Chapeau bas. Donc, ce monsieur projette des coupes drastiques dans l'effectif. À Étables-sur-Mer, maintenant. Il y a des tas de noms de petites villes comme ça. C'est assez... On ne se douterait pas hein, qu'il y a des grèves dans tous les coins de France. Il y a 36 000 communes, quand même. Hein. Je ne sais pas si je n'ai pas fait toutes les 36 000 communes, d'ailleurs, depuis le temps. On vérifiera, oui. Donc, à Étables-sur-Mer, pour l'instant, des salariés d'une plateforme logistique qui lutte pour une prime de départ. C'est chez Globe, 37 ex-salariés de... ex-salariés de Jacadi qui, abandonnés par leur direction, se retournent vers les élus du coin. On leur souhaitera bon courage. GEFCO, maintenant, c'est à Ordin, dans le Nord, avec cette entreprise faisait partie, je ne sais plus exactement, du groupe PSA, donc Peugeot, société anonyme, mais qui a quitté apparemment la famille. Salarié contre un PSE, 134 suppressions d'emplois, au plan national, 13 à Ordin sur 16. Les grévistes ont bloqué en partie le site de Cévelle Nord, nom bien connu, qui est leur principal client de GEFCO, bien entendu. À Carcassonne, ce sont 18 salariés qui étaient en grève chez le maître des lieux, c'est-à-dire Veolia, du site carcassonnais, mais pas que, puisque c'était à Lézignan également qu'on se mobilisait, à Narbonne et à Port-la-Nouvelle. Donc, dialogue social inexistant, la direction profite et place une modification du temps de travail. Veolia est titulaire d'une délégation de services publics. Et donc, il y a eu des actions des grévistes, par exemple, me contacter les 130 maires du département où Veolia gère la distribution d'eau. Alors, en tout cas, conflit, bien sûr, car le Dirlo ne reviendra pas sur la décision, vu que 200 salariés, c'est moche, ont courbé les chines dans cette lutte. Une colère également à Valenciennes, chez Bombardier, c'est une entreprise, qui est spécialisée dans le matériel de transport très connu. Bombardier, je crois même que c'est plutôt une boîte canadienne, qui est spécialisée dans le matériel de transport, c'est-à-dire les avions, les trains, les trams, enfin, etc. Un collègue, donc, dans la mouise, suite à un licenciement sans cause réelle, avec une manifestation devant l'usine qui a eu lieu en juin déjà. Le 16, il était viré, donc prud'homme, soutien pour le réintégrer. Et le 20 juillet, patatrac, report du dossier. Et évidemment, s'ensuit une colère, car le salarié est en grande détresse. Et puis, toujours dans le Nord, avec Croix, dans le Nord, une victoire contre un des géants que l'on connaît bien, qui avait à une époque ces gros catalogues-là, je veux dire les Trois Suisses. Les Trois Suisses qui sont revenus à une autre manière de faire maintenant, puisque tout passe par l'Internet, et qui avait à cette occasion donc licencié à tour de bras. 67 salariés, EES, de femmes, ont eu gain de cause par la cassation. Les licenciels, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette association là de lutte qui s'était créée donc à cette occasion, elle l'avait appelée les licenciels, donc E2LES en terminaison, une association de défense donc, qui a quand même depuis 5 ans, s'est battue depuis 5 ans pour obtenir des indemnités. Eh bien, ils les ont obtenues. Contestation donc aussi des licenciements économiques. En fait, ça avait été placé cela sous la bannière d'une modernisation, évidemment, du travail des Trois Suisses, enfin de la production, etc. etc. Voilà pour ce premier jet donc de lutte sociale.
Ouais, du coup, j'ai un petit truc, je sais pas si tu comptais le faire, mais ça s'est passé au mois de juillet. Alors, c'est pas une lutte malheureusement, mais c'est un décès, un nouveau décès à la poste, un suicide. Je sais pas si tu l'avais. Non, c'est pas prévu pour aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, je vais me lancer comme c'était au mois de juillet.
Vas-y,
ouais. Donc voilà, ça s'est passé le 17 juillet dernier. Donc après 34 ans de service à la poste. Donc ce monsieur, c'est Charles Griffon, s'est suicidé, laissant à ses pieds la lettre d'un facteur désespéré, poussé à bout par son entreprise, comme en témoigne sa famille. Il nous en parlait souvent, ces dernières années à la poste tout a changé, il avait récupéré plus de 200 boîtes aux lettres sur sa tournée, alors que c'était déjà la plus dure de Pontarlier. Mon père ne se peignait jamais, c'était quelqu'un de bosseur, d'assidu, le problème c'est qu'il était à bout. Ils l'ont poussé à bout, explique son fils. Charles aimait le contact avec les gens, l'aspect social, mais tout ça c'est terminé. La poste l'a poussé dans le précipice, la pression, le rendement, l'argent, il n'y a que ça qui compte maintenant. Et comme à son habitude, puisque malheureusement cela devient une habitude à la poste où les suicides se comptent par dizaines, les mouvements sociaux aussi, l'entreprise a envoyé à la famille un ironique carton de condoléances, tout en expliquant que ce n'est ni le moment ni le lieu pour polémiquer sur quoi que ce soit, bien évidemment. Voilà, rappelons que l'entreprise de Philippe Wall, je sais pas comment on dit, a réalisé un bénéfice net de 675 millions en 2015, en hausse de 59%, tout en supprimant plus de 7000 postes et en augmentant les cadences pour ceux qui restent. Sa famille, elle dénonce l'ensemble de l'entreprise. Il n'est pas le seul seul postier à souffrir, on en parle parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. C'est à cette fin que donc une des sœurs a publié la lettre de Charles Griffon et que je vais vous lire. Voilà, donc on ouvre les guillemets. Depuis 34 ans, j'ai exercé mon métier avec l'amour de mon travail et de mes clients, mais depuis quelques années, la Poste a petit détruit ses employés, les vrais postiers, ceux qui avaient le contact avec les gens. En ce qui me concerne, ils m'ont totalement détruit. Depuis décembre 2015, je suis en arrêt de travail et je souffre intérieurement le martyr. Personne, ni de mes collègues ou de ma hiérarchie, n'a pris de mes nouvelles. Alors bougeons avec la Poste et mourons grâce à la Poste. Donc signé Charles Griffon, facteur à Pontarlier. Donc voilà, et il y a aussi un autre incident à la Poste. Ça donc c'est sorti il n'y a pas longtemps, mais ça datait de février 2016, avec du coup, à Villeneuve-d'Ascq, une employée de CDD qui attaque donc sa hiérarchie pour non-assistance à personne en danger. Voilà, c'est une personne qui était en train de faire un AVC, qui a demandé plusieurs fois à rentrer chez elle, qu'ils appellent les pompiers, etc. Et c'est grâce à l'intervention d'un syndicaliste qui est membre du CHSCT que les pompiers ont pu la prendre et qu'il a pu être, entre guillemets, prise en secours à temps. Donc voilà, maintenant elle est reconnue en arrêt longue maladie. Voilà, elle n'a toujours pas repris le travail. Elle doit constituer donc maintenant un dossier pour être reconnue comme travailleuse handicapée. Donc voilà, elle boite, elle a un cachet à vie pour fluidifier le sang et les antidouleurs. Elle ne peut plus faire ce qu'elle veut avec ses enfants de bas âge et dès qu'elle a une distance à parcourir, elle doit prendre ses béquilles. Donc voilà, elle qui disait adorer son travail, ben voilà, mais du coup.
Elle a trois enfants, je crois aussi.
Ouais, voilà, à cause de ce patron-là qui n'a pas voulu l'écouter. Donc voilà, et en plus son collègue du CHSCT donc a fait prévenir les pompiers donc qui avaient gueulé un bon coup, fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Donc comme ça la
pour faire bon poids quoi.
Comme ça la vie est belle.
Oh mais les PTT, enfin la Poste.
Vive la Poste, ouais voilà. Voilà. On apparaissait souvent dans les luttes notamment, voilà, c'est pratiquement toute la semaine.
Musique sur ça, on va écouter Maurice Fanon. C'est pas souvent qu'on l'a écouté ici. J'ai trouvé un petit truc qui vient de sortir là. Qui va nous parler de lui justement, puisque le titre de ce morceau c'est Avec Fanon, voilà, écoutez.
C'est peut-être à coup de châtaigne qu'on devient marron, c'est peut-être à coup de bombaine qu'on devient neutron, c'est peut-être à coup de canon qu'on se fait un bâton de maréchal, une veuve joyeuse, une gueule cassée, deux étoiles. C'est peut-être en débitant du saucisson qu'on fait fortune dans la chanson. Faudra que j'essaye avec Fanon. C'est peut-être à petit coup de blanc qu'on devient poivreau. C'est peut-être à petit coup de temps qu'on devient salaud. C'est peut-être à coup de métro qu'on se fait une gueule de parigot qui ne pense plus qu'à sa voiture, à son frigo. C'est peut-être en montrant le fond de son pantalon qu'on fait son trou dans la chanson. Faudra que j'essaye avec Fanon. C'est peut-être par la calotte qu'on devient païen. C'est peut-être par la culotte qu'on devient putain. C'est peut-être par le calot qu'on devient crétin. Par le culot qu'on devient quelqu'un qui ne fait rien de ses deux mains. C'est peut-être en chantant mon cul sur la commode qu'on se fait une chanson à la mode. Faudra que j'essaye avec Fanon. C'est peut-être au chapeau qu'on voit l'homme d'affaires. C'est peut-être aux affaires qu'on voit le gangster. C'est peut-être à coups d'onzeille qu'on se fait sa place au soleil, à coups de baise-main qu'on se fait un lit à baldaquin. C'est peut-être en marchant sur les mains des copains qu'on se fait un nom dans la chanson. Faudra que j'essaye avec Fanon. C'est peut-être en forgeant qu'on devient forgeron. C'est peut-être en hanant qu'on devient bûcheron. C'est peut-être en bourlingant qu'on devient matelot, à coup de faucille qu'on devient marteau, à coup de marteau qu'on fait le gros dos. C'est peut-être à coup de chanson sans concession qu'on fait sa petite révolution chez les rois Louis de la chanson. C'est peut-être à cause d'une chanson comme une nuit comme des champignons, tous des amis qui font la rime à mes chansons.
Voilà, Fanon. Idée Noire, toujours sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On va attaquer une nouvelle page.
Donc voilà, on va continuer un petit peu sur l'autopropagande. Comme je disais en début d'émission, il y a des communiqués qui ont été pondus par les camarades En cette fin d'été, début de rentrée, et donc du coup, on va vous lire le deuxième, du coup, qui concerne, dont le titre, vous allez savoir tout de suite de quoi on parle, de la pseudo-lutte antiterroriste à l'islamophobie ordinaire. Et donc, vous avez sûrement vécu ça aussi péniblement cet été avec cette déferlante raciste. Depuis quelques mois et sous couvert de lutte antiterroriste, les libertés individuelles sont de plus en plus bafouées et le ressentiment envers les personnes musulmanes ou supposées l'être est de plus en plus haineux. La parole raciste a explosé en surfant sur les attentats perpétrés par les fascistes de Daesh. Les attentats de Nice ont marqué un cran supplémentaire dans la diffusion de discours racistes ciblant les personnes musulmanes ou considérées comme telles. Les politiques de tous bords ont surfé sur la peur consécutive aux attentats pour développer le racisme islamophobe. Les arrêtés anti-Burkini pris cet été s'inscrivent dans cette offensive politique masquée derrière des discours sur la entre guillemets laïcité ou la entre guillemets encore libération de la femme détournée de manière frauduleuse pour faire passer une soupe raciste. Les politiciens se présentent comme porteurs entre guillemets d'apaisement alors qu'ils soufflent sur les braises. La parole raciste a ainsi été décuplée sur le territoire et sur Internet en proposant une vision très essentialiste des personnes musulmanes ou supposées l'être. En gros, toute personne, pour ces personnes-là bien sûr, hein, toute personne racisée est ainsi supposée musulmane. Toute personne musulmane est donc considérée comme une recrue potentielle pour Daesh et donc représentant une menace pour la, entre guillemets, fameuse nation française. Le fait qu'il existe, comme dans la majorité nationale et les autres minorités nationales, un éventail très large de positions politiques au sein de la minorité musulmane, un éventail très large de positions, voilà, est tout simplement nié. Comme systématiquement dans la dynamique raciste, après la parole sont venus les actes, violences physiques comme à Cisco et violences institutionnelles par le harcèlement policier des femmes comme à Nice par exemple. Une fois encore, ce sont donc les femmes appartenant pour la plupart aux classes populaires qui font les frais d'une politique réactionnaire et raciste justifiée par un discours paternaliste. Un discours pseudo-féministe qui entend réglementer la tenue des femmes au nom de la laïcité tout aussi sûrement que d'autres courants réactionnaires au nom de la religion ou encore des bonnes mœurs, ou de la décence, tout ça entre guillemets. Ces nouvelles interdictions n'ont donc en aucun cas l'objectif de lutter contre le patriarcat comme l'annoncent certains responsables politiques, qui par ailleurs multiplient les attaques matérielles contre les femmes, mais bien de réaffirmer l'identité d'une fameuse majorité nationale blanche et de culture chrétienne sur l'air connu de « on est chez nous ». Toute cette politique de création d'un soi-disant ennemi intérieur participe de l'oppression des personnes appartenant à la minorité nationale musulmane, c'est-à-dire non seulement des croyants et croyantes, mais aussi des personnes qui sont considérées musulmanes de par leurs origines ou leur couleur de peau, tout en ayant une autre religion ou en étant athée. Cette politique vise à la réaffirmation d'un système raciste, définissant une majorité nationale blanche et de culture chrétienne, comme le corps national naturel, et des minorités nationales, dont la minorité musulmane, comme d'un corps extérieur à la nation qui n'aurait pas sa place ou uniquement sous condition sur le sol français. Ce qui se passe aujourd'hui en France rappelle la volonté de montrer une supériorité, voire comme dans la période coloniale, d'imposer un modèle supposé civilisateur. Les takfiris de Daesh se frottent les mains car un de leurs messages récurrents est que les personnes musulmanes ne peuvent pas vivre en Occident car elles ne sont pas acceptées. Ils trouvent dans ce discours raciste un appui pour leur politique de recrutement. Nationalistes et suprémacistes blancs et takfiristes de Daesh représentent les deux faces de la même pièce, fondée sur la théorie raciste du choc des civilisations. Ils se renforcent mutuellement par leurs actions, dont les classes populaires font prioritairement les frais, et au sein d'elles, les minorités nationales en premier lieu. Face à cette déferlante raciste risquant d'empirer avec la campagne présidentielle, la CGA Lyon appelle toutes et tous à la vigilance et à la solidarité face aux oppressions que subissent et subiront les minorités nationales. Non à l'islamophobie, halte au racisme d'État. Et comme pour le premier communiqué, on a accompagné ça de petits encadrés, notamment pour rappeler ce qu'on désignait comme majorité et minorité nationale. Donc je vais vous le redire parce que du coup ça apparaît pas mal de fois dans le communiqué. Donc les minorités nationales, ce sont l'ensemble des groupes minoritaires présents sur un territoire donné et qui sont, ont été ou peuvent être considérés comme extérieurs au corps national tel que défini par l'idéologie dominante. Selon les contextes, ils peuvent être considérés comme appartenant au corps national ou comme lui étant extérieur. Dans le premier cas, cette appartenance est sans cesse susceptible d'être remise en cause, en question dans les discours, dans la pratique et notamment l'attitude des institutions. Et en France, la majorité nationale, selon l'idéologie dominante, est de peau blanche, de culture chrétienne, que les personnes soient croyantes ou non. Et par idéologie dominante, il faut entendre ici l'ensemble des représentations dominantes, majoritaires, véhiculées tant par des références culturelles implicites que par les discours à caractère politique explicite. Les minorités nationales, quant à elles, sont constituées de toutes les personnes qui ne correspondent pas à ces critères arbitraires définis de manière explicite ou implicite par l'idéologie dominante. Voilà, le discours dominant exclut les personnes appartenant à ces minorités nationales, non sur la base de leurs croyances religieuses, mais sur celle d'une assignation identitaire de type ethnique ou racial dans laquelle la religion n'est pas abordée comme un ensemble de croyances et de pratiques sociales, mais comme une identité assignée à l'individu sur la base d'une filiation. Donc voilà, cette vision assez simpliste que malheureusement de plus en plus de monde. Et on avait rajouté un petit encadré, puis on vous invite à aller sur le site de Rebellion pour ça, voilà, avec cette nécessité de la lutte contre l'islamophobie aujourd'hui. Donc voilà pour ce petit communiqué. Puis on a un troisième communiqué, alors je vais pas vous lire en entier parce que la situation change pratiquement tous les jours là-bas. Voilà, donc c'était par rapport à ce qui se passe en Syrie et notamment dans le nord de la Syrie, la frontière avec la Turquie. Donc vous êtes tous au courant de ce qui se passe depuis un grand moment là-bas et puis l'expérience démocratique qui a lieu dans la province du Rojava. Et ben du coup la Turquie profite un petit peu de tous ses alliés pour pénétrer sur le sol syrien, soi-disant pour combattre Daesh, mais surtout pour taper sur les Kurdes et pour essayer de mettre fin à cette expérience démocratique, le confédéralisme démocratique, voilà, par les Kurdes. Voilà, donc on a écrit un communiqué là-dessus. On vous invite à le lire à tête reposée. Il y a les petites cartes pour expliquer un petit peu ce qui se passe et notamment la fameuse zone tampon que la Turquie voudrait installer pour couper justement cette expérience-là et mettre fin au Rojava. Donc voilà, donc on vous laisse lire ça. Vous trouvez aussi forcément ce communiqué sur Rebellion et sur notre site CGA Lyon, cga.lyon.ouvinton.org. De toute façon, vous tapez CGA Lyon sur un moteur de recherche et puis normalement vous trouverez tout ça. Et ben du coup, ça a été plus rapide que prévu, mais peut-être qu'on peut, voilà, parce que j'avais pas à le dire, ça a été un peu long, celui-là c'était le plus long des communiqués, ça a été un peu long à la radio, autant le lire à tête reposée sur votre ordinateur.
Tu veux un peu de musique.
Voilà, on va faire une petite pause tranquillement, puis on fera un deuxième jet de lutte sociale juste derrière.
Oh, on va écouter à nouveau, il faudra que peut-être que je l'affiche déjà.
Peut-être, ça peut mieux marcher.
On va écouter encore Maurice Fanon, là, qui va nous interpréter la petite juive.
Borné de quel entre-deux-guerre, où ceux qui font les lois les troussaient par derrière. Nous n'avions que 5 ans du pain sec au dessert, pour 5 lettres de trop ou 1 P de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagné au chemin des dames et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un kaki douteux, cocufié Madelon dans les bras de Marlène. Une fois l'an, nous allions voir entre père et mère la victoire en chantant nous ouvrir la barrière. Et nous nous en allions en suçant des bonbons, jouer du revolver à deux sous le bouchon. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était jolie. On faisait des bêtises où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise et je m'en souviens. Dans ce monde truqué de quelle drôle de guerre, où ceux qui font le front le bradaient à l'arrière, nous n'avions que 10 ans et dans nos gibecières une histoire de France qui tombait en poussière. On nous a fait courir, traverser des rivières, sur des ponts d'Avignon qui dansaient à l'envers. Ça tirait par devant, ça poussait par derrière, les plus pressés n'étaient pas les moins militaires. On nous a fait chanter pour un ordre nouveau, d'étranges marseillaises de petite vertu, qui usaient de la France comme d'un rince cul, et s'envoyaient en l'air aux portes des ghettos. Et je me souviens, la petite juive, on lui a dit, viens, elle était jolie. Elle a fait sa valise, un baiser de la main, elle s'appelait Lise. Il n'en reste rien. Dans ce monde morné d'avant quelle autre guerre, où le Japon blessait les champs encore son cancer, dans ce monde sceptique où ceux qui ont la foi ne savent plus si Dieu est devant ou derrière, dans ce monde d'argent où la banque surnage comme un poisson ventre qui attend le naufrage, nous n'avons que 30 ans, sainte horreur de la guerre, et pourtant nous n'avons pas cessé de la faire. On nous a fait marner de Djebel en rivière, de Caribe dans Scylla, de cuvette en civière, comme si nous n'avions pas autre chose à faire qu'à montrer nos fesses aux quatre coins de la terre. Et je me souviens, la petite juive, elle me disait, viens, elle était jolie. On faisait des bêtises où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise et je m'en souviens.
Donc voilà, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et on va attaquer avec donc la troisième partie de l'émission et donc un deuxième jet de lutte sociale. Le petit résumé d'août, peut-être, c'est ça?
Ah non.
Ah non, raté,
c'est
encore.
C'est toujours juillet. Ah, bah, raté. Juillet à 30 jours, monde, au 31.
Oui, enfin, oui, oui.
La semaine prochaine, vous aurez droit aux luttes de août. J'ai pas fignantisé. Hein.
Non, mais je vois ça.
Voilà. Donc, toujours les luttes de juillet avec la BNF. Cette fois, la BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France. Mobilisation gagnante encore ici, après quand même 3 mois de lutte, quand c'était un mouvement contre la précarité et le manque d'effectifs. Cette grève a débuté pile poil après la nomination d'une nouvelle directrice. C'est toujours le bon moment. Mouvement d'ampleur, donc, selon CGT, Sud et FSU, qui constituaient donc l'intersyndicale contre l'utilisation abusive de vacataires, donc de personnes en forte précarité, dans cette superbe et super bibliothèque publique François Mitterrand socialiste à Paris, dont la maire est socialiste, et cela se passe pendant le mandat d'un exécutif socialiste. À Montchanin, c'est dans le 71, la Saône-et-Loire, avec une mobilisation juilletiste, toujours chez la SFAR, S-F-A-R. Mécanique de précision, avec précision, on supprime des postes à tout va. 49 sur 93, des barrages ont été mis en place sur la zone industrielle de Montchanin. Une société de plus qui se fout pas mal de ses ouvriers, de ses salariés. En octobre 2015, ceux-ci dénonçaient les conditions de travail suite au décès d'un des leurs, écrasé par une pièce métallique d'une tonne et demie. L'insécurité donc dénoncée, la direction a daigné jeter un regard sur les conditions de travail, l'état des ateliers pour aménagement. Boudou, maintenant c'est dans le Tarn-et-Garonne, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a des noms superbes de petites villes, de petites villes. Donc c'est dans le Tarn-et-Garonne, avec des travailleurs et des travailleuses saisonniers qui, après 16 jours de négociations pour des heures supplémentaires non payées, eh bien le patron, cet exploiteur, enfin du moins c'était un exploitant agricole, qui a finalement dû payer leur dû à ces travailleurs venus d'Espagne. Alors on dénonce aussi pour la cause, puisque ce sont les salariés d'Intel, cette fois, groupe informatique. Cette société, cette entreprise tranche dans le muscle avec un plan bien aiguisé, spécial licenciement en gros. 12 000 employés, 11% de l'effectif au niveau mondial. En France, ça sera 80% de l'effectif, c'est-à-dire 750 emplois. Et ça, on le sait depuis avril 2016. Un communiqué des mécontents a été envoyé le 22 juillet. Alors croyez-moi, quand même, les patrons et les patronnes n'ont pas chômé pendant ces 4 derniers mois. À Plaisir, ben oui, c'est aussi le nom d'un petit bled dans le 78, des intérimaires cette fois, 50 personnes en rassemblement devant leur exploiteur adéquat intérim. Alors pourquoi ? Ben pour exiger ce qui est un dû, là également, des attestations de concordance de deux travailleurs sans papier, attestation éminemment importante et nécessaire, on le rappelle, à leur régularisation. La CGT s'occupe des deux personnes sans papier et de adéquat intérim aussi par la même occasion, n'est-ce pas ? Donc trois autres personnes sans papier étaient en attente de, ben, de ce fameux papier pour leur régularisation. À Omoko, c'est dans les Landes, avec la société Atemax Soleval, un ouvrier licencié pour une faute jugée grave par la direction, et bien ses collègues ont jugé, eux, la décision par la grève. La faute, ben, un oubli ou pas d'ailleurs, de tirer les volets de la benne contenant des déchets de volaille. Alors certes, ça peut schlinguer un petit peu, mais enfin, est-ce que c'est là une faute grave ? Eh bien, pour la direction, oui. Et c'est ici la CFDT qui s'est révoltée et accuse même la direction de ne pas se préoccuper du matériel par ces temps de grippe aviaire, évidemment. À l'époque, on se souvient, il y avait des petites inquiétudes à propos de la grippe aviaire. Et ben, on peut dire que, en fait, la grippe aviaire était non présente sur le site, donc il n'y avait pas de drame à faire à propos de cette petite faute de travail, simplement, quoi. Donc à Saulieu, maintenant c'est dans le 21, donc la Côte d'Or, dans une maroquinerie, 80 personnes salariées en grève, 12 centimes d'augmentation sur les horaires de travail. La CGT, ça sera 20 centimes finalement, 110 grévistes sur 170 employés pour une heure seulement, je dirais, de grève à l'extérieur de l'établissement. Et puis à Lyon, il y a eu des débrayages aussi aux galeries Lafayette de La Part-Dieu, avec une intersyndicale composée de la CGT, de la CFDT, de EFO, qui a dénoncé les mauvais traitements des travailleurs et travailleuses sous plusieurs formes, alors à savoir un sous-effectif évidemment, des conditions de travail déplorables, ben, qui vont avec un sous-effectif, donc grève mais avec parcimonie car les salaires ne sont pas épais aux Galeries Lafayette. Et le ras-le-bol, lui, ben, il était épais. Alors donc, grève, et Lafayette, nous voilà, aurait pu entonner les grévistes, syndiqués et non syndiqués, donc qui se sont joints, qui dénoncent les non-remplacements de départ, par exemple en retraite, ou de fin de contrat, et aussi qui dénoncent les ruptures conventionnelles. Hein. Ça va bon train en ce moment, hein, de ce côté-là aussi. Et puis, pour terminer cette deuxième page, eh bien, on va aller en Avignon, enfin du moins à Avignon, une initiative de salariés du Festival d'Avignon. Votée, cette initiative, à 88% des présents et présentes, ils étaient 125 personnes, qui ont décidé de déclarer persona non grata tout membre du gouvernement. Mmh. Oh, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, là. Persona non grata tout membre du gouvernement, et si par malheur il y en avait eu un ou une présent ou présente, eh ben c'était pas de spectacle du tout, du tout, du tout. Donc apparemment le spectacle a eu lieu, donc c'est que
du coup, soyez, c'est très bien
ils
caché.
Ils ont écouté la leçon, personne s'est pointé. Voilà.
Ok. Et ben on va finir toujours en rapport avec la lutte sociale, du coup avec un article d'analyse de nos camarades de la CGA sur la région parisienne, voilà, sur la force des blocages et des structures interprofessionnelles dans la lutte contre la loi travail. Ils ont fait un petit retour du coup sur ce qui s'était passé notamment sur Saint-Denis et par rapport à l'interpro de là-bas, et c'est assez intéressant comme analyse, donc je vais vous la lire. Voilà, elle est en trois parties. Donc la première, c'est la force des travailleuses et travailleurs, c'est la grève. La destruction du code du travail et la volonté de briser la résistance syndicale ont eu l'effet d'un ressort sur l'ensemble des exploités après des années d'asservissement. Écrasez-nous et on vous explosera à la figure. Pour menacer les patrons et l'État, c'est au portefeuille qu'il faut s'en prendre. L'action directe a eu un rôle moteur dans ce mouvement social, l'un des plus longs de l'histoire. Toute personne qui a pensé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, à avoir droit de protester et a pris son courage à deux mains pour le faire, toute personne qui a revendiqué un droit seul ou avec d'autres à pratiquer l'action directe, ces actions résultent des efforts spontanés de ceux qui se sont opprimés par une situation donnée. Elles sont contre les autorités légalement constituées et contre le droit de propriété. Tonne l'anarchiste féministe. Voltairine de Clerc au début du XXe siècle. La pertinence du constat est aujourd'hui sans appel. Le regain de l'action directe se fait sentir alors même que la dictature patronale s'installe sans faille, sous bonne protection de l'État. Les pratiques de lutte interprofessionnelles, anti-autoritaires et horizontales ont été le cœur de la multiplication d'actions directes. Blocage d'axes de transport, blocage de lieux de production, etc. À Saint-Denis, ville populaire de 120 000 habitantes et habitants, l'Assemblée Interpro, soutenue par les unions locales Sud Solidaire et CGT, a battu le fer pendant ces 4 mois de lutte. Elle réunit les agents agentes de la ville, les enseignantes enseignants, les travailleuses travailleurs de la RATP, des hôpitaux, les chômeurs chômeuses, les étudiantes étudiants et précaires de plusieurs secteurs du privé. Son objectif est d'organiser toujours plus les travailleuses et travailleurs de Saint-Denis, dont une grande majorité travaille dans des secteurs privés où l'on subit déjà la fameuse loi travail, notamment dans le commerce, le nettoyage, la restauration et la division raciste du travail, et où les conditions de travail vont encore plus se dégrader. L'AG Interpro s'est organisée en 3 temps, appel à la grève et organisation de la grève, avec une caisse de grève notamment, action pour généraliser la grève, diffusion de tracts aux heures d'embauche, action de piquets de grévistes volant de boîte en boîte, et action de blocage économique organisée au moins une fois par semaine par la commission Action sous mandat et contrôle de l'Assemblée de grévistes. La bonne organisation de ces actions, la décentralisation et la volonté de se fédérer avec les autres mouvements de lutte, avec notamment une participation aux assemblées de lutte de la région, les renforts des sites bloqués par les grévistes, etc., ont été les points d'appui de coordination efficaces. Que dans les assemblées s'organisent des actions pour soutenir la grève des agents RATP ou du centre de tri, quand une cinquantaine de membres de l'AG Interpro participent à la grande manifestation des cheminots en grève de la gare de l'Est à gare Saint-Lazare et occupent les voies avec les grévistes, quand les zones logistiques du 77 sont bloquées en coordination avec la commission grève générale de Nuit Debout Paris et l'assemblée de lutte de la Brosse du Travail, quand l'AG Interpro apporte son soutien aux grévistes de Franprix Saint-Denis et des travailleuses de l'EHPAD en proie à la répression, etc. Deuxième partie, bloquer le capitalisme. Le pouvoir des travailleuses et travailleurs réside dans leur capacité à paralyser la production pour stopper le rouleau compresseur capitaliste. Les actions de blocage de l'AG Interpro dionysienne se sont resserrées autour des cibles patronales locales et régionales, des lieux de production et de circulation des richesses, comme autant de manières de marquer les consciences, de désigner directement qui sont les responsables, l'illégitimité de leur pouvoir sur leurs salariés et, de bloquer les gros flux de production. C'est nous qui travaillons, alors c'est nous qui décidons. L'accès au port de Paris, à Gennevilliers où transite 1% du PIB national, a été bloqué à 2 reprises directement et indirectement, avec un blocage d'un pont d'accès. Tôt le matin, à l'heure d'embauche, le site du gros patron local Dubrac, qui concentre entre ses mains tous les marchés du BTP municipaux en même temps qu'il dirige le MEDEF 93 et 95, est bloqué et le principal accès barré de plusieurs banderoles. Braqué Dubrac et tous les autres, l'hôtel 4 étoiles construit à l'occasion de l'Euro 2016 a été occupé et un pique-nique partagé entre toutes et tous les grévistes. Des piquets ont été organisés devant les gros sièges sociaux, qui pullulent dans la plaine. Ces actions de blocage ont aiguisé et renforcé la conscience de classe des travailleuses et travailleurs et la cause anticapitaliste en même temps qu'elles en ont amplifié le rapport de force. Force vive de la lutte, ces actions ont mis en mouvement les structures intersyndicales départementales et régionales qui ont pris en charge l'organisation et l'appel à blocage seulement dans la deuxième partie du mouvement. L'exemple du blocage de l'aéroport du Bourget à la fin du mois de juin, au lieu des déplacements des élites capitalistes et politiciennes, puisqu'en moyenne navigue 1,5 voyageurs par avion, à l'appel de l'intersyndicale CGT Sud Solidaire et Faux, en est une belle illustration. 10, 20 ou 30 personnes qui s'entendent bien, qui sont bien organisées, qui savent où elles vont, peuvent en entraîner facilement 100, 200 ou même plus, disait Bakounine. Dans la région parisienne, la combativité et la détermination de l'AG Interpro de Saint-Denis a donné du courage à de nombreux collectifs de lutte. Au-delà des actions de blocage, l'AG Interpro a appelé à la grève en dehors des journées intersyndicales dans le but d'accroître le mouvement et de populariser la grève. Des pratiques horizontales se sont installées et s'expérimentent. Pour chaque action, des camarades référentes et référents s'activent pour assurer la bonne efficacité et pour la sécurité face à la répression qui, dès la deuxième action, a tapé en plein cœur l'AG Interpro avec l'arrestation de 140 personnes et la garde à vue de 2 personnes blessées dont l'un est en procès en automne. L'expérience des pratiques anti-autoritaires, l'action directe par et dans la grève ont façonné le pouvoir populaire. Celui-ci est la capacité du peuple, à savoir les travailleuses et travailleurs, d'agir sans hiérarchie par l'autogestion dans la recherche de l'émancipation et pour atteindre des objectifs de lutte contre les exploiteurs. La culture de mobilisation interpro contre les corporatismes ou les chapelles syndicales et l'unité des luttes locales dans ce combat global ont été les ferments de la mobilisation. Les luttes dionysiennes des années passées ont agi comme une gymnastique et entraîner la résistance, donnant des bases solides à l'AG Interpro. D'année en année, les luttes s'accélèrent. L'année passée, tout Saint-Denis a été traversé du nord au sud par une lutte des écoles pour les moyens et le droit à l'éducation. Les 25 classes sans instit à la rentrée 2014 ont agi comme un feu de poudre, tant sur les enseignantes et enseignants que sur les parents. Grève reconductible, action de blocage d'autoroute, occupation du lycée de la Légion d'honneur et de l'inspection, séquestration d'un inspecteur. Le mouvement local contre la loi travail s'est ainsi largement inspiré de ces modes d'action directe. Celles et ceux des parents et des instits qui luttaient hier ont relevé les manches au printemps. À travers l'association, ils et elles apprennent à s'aider eux-mêmes, à se connaître, à s'entraider les unes et les uns des autres, et finalement à créer une force plus redoutable que celle de toutes les bourgeoisies capitalistes et de tous les pouvoirs politiques réunis. Et là-dedans, de nombreux syndicalistes libertaires ont eu un rôle moteur dans l'AG Interpro dionysienne. La tradition syndicaliste libertaire a permis la mise en avant de l'action directe comme arme dans le rapport de force face au pouvoir patronal. Dès ses débuts, l'intervention des anarchistes dans les luttes syndicales et le mouvement ouvrier ont été décisives. Création des bourses du travail, défense d'un syndicalisme d'industrie et du confédéralisme contre la verticalité et sa hiérarchie, défense de la grève générale et de l'action directe. Cette empreinte majeure est présente jusqu'à maintenant dans les statuts et pratiques confédérales de nombreux syndicats. CGT, même si depuis une quinzaine d'années, tu s'est remis en cause, dans la CNT, etc., dans la dynamique des unions locales et les assemblées interpro. L'appel « On bloque tout » à l'initiative de syndicalistes libertaires et auxquels des militantes et militants de la CGA ont pris part, se veut le relais de cette défense de l'action directe. Nos regards et nos déterminations sont maintenant tournés vers la rentrée, et ne s'étonne pas que, et cela est inédit, que le combat rejaillisse après le temps d'arrêt estival. Toutes et tous en grève le 15 septembre dans la rue et dans les AG de lutte. Voilà, donc ça c'était un texte des syndicalistes libertaires de la CGA de la région parisienne. Et pour une analyse plus poussée des luttes dans le monde du travail, on a aussi une motion à la CGA. C'est quelle est notre position sur les syndicats ? Donc on vous invite aussi à aller la consulter et à la lire. Et ce qu'il faut savoir aussi sur Saint-Denis, c'est qu'il y a eu une grosse lutte aussi au niveau des instits et des écoles, comme en 2014, comme en 2015, et qu'ils ont gagné sur toute la ligne, parce que ça s'est mobilisé un peu de partout, et c'est sûrement aussi grâce à ce qui s'est passé pendant 4 mois, qui a créé des liens, qui a permis aux gens de voir que la mobilisation, elle marche. Donc voilà, il est moins 5, ouais, j'ai encore 2-3 petits trucs éventuellement rapidement, tant que la lumière du frigo s'installe. Donc du coup, voilà, un petit article trouvé sur Paris Lutte Info, voilà, avec de nouveau, un peu comme tout le temps et malheureusement partout, des violences policières. Ce coup-ci, c'était sur le canal Saint-Martin avec un témoignage. Samedi 3 septembre, nous sommes sur le bord du canal Saint-Martin, nous buvons quelques verres comme tant d'autres. Il est un peu plus de 2h du mat, suite à un début de bagarre, la police arrive en nombre. Plusieurs unités de la BAC et de police nationale décident d'évacuer les fêtards et toute une partie du canal. Il devait être une trentaine pour faire face à une centaine de personnes. À l'arrivée des policiers, une partie des jeunes présents, à peu près aussi nombreux que les policiers, refusent de partir à la demande de la police. À savoir que la police a simplement dit « Première sommation, vous allez devoir partir ou nous allons faire usage de la force ». Et à ce moment-là, par petits groupes de policiers, ils commencent doucement une sorte de nasse. Comme nous avons pu en connaître pendant les manifs de ces derniers mois. Très vite, la NAS tourne à la bagarre avec des policiers très agressifs, frappant gratuitement des jeunes présents. De nombreux présents dénoncent leur comportement et seront des victimes ciblées de policiers en roue libre. Ceux qui filmaient sont violemment poussés, leurs téléphones jetés au sol, des coups de poing partent, certains sont tirés par les cheveux. Mais ces agressions ne manquent pas de provoquer une réaction. Chants, jets de bouteilles, insultes. Il y a une petite vidéo sur le site, vous pouvez aller voir. Les altercations ont duré une quinzaine de minutes entre la rue de Marseille et la rue Jean-Poulmarc sur un espace de 50 mètres de long. Le lendemain, nous apprenons qu'un jeune homme parisien de 23 ans a la clavicule cassée suite au coup qu'il a reçu à ce moment-là. Nous avons pu lui parler et il nous a fait part de son envie de porter l'affaire devant l'IGPN. On sait très bien que c'est un récit de violence policière parmi tant d'autres, mais on ne doit pas s'habituer ni accepter. On doit toujours dénoncer ce type d'abus. Puis moi, je voudrais le rendre public aussi pour pas que ça reste sous silence. Donc voilà pour cette petite brève pour finir l'émission. Et on va vous rappeler un petit peu les annonces qu'on a faites. Donc du coup, avec cette soirée de rentrée pour la CGA, la plus noire, donc ça se passera, je te laisse faire, t'as le papier.
Soirée, donc, comme on l'a annoncé en début d'émission, soirée de rentrée à la plume, soirée de soutien et de présentation donc, de nos activités, nos différentes commissions qu'on verra donc sur place.
Voilà, avec les différents fronts de lutte. Hein,
Les fronts de lutte, là.
On peut vous les rappeler rapidement. Lutte, hein.
Voilà, il y aura donc un repas prévu, évidemment, prix libre, évidemment. Un bar et ses boissons gazeuses, comme je disais tout à l'heure. Concert avec le groupe Leprechaun, folk irlandais. un DJ mix Toan. On ouvre les portes à partir de 19h, mais enfin, si on
voilà, 19h,
avant,
vous pouvez,
voilà, ouais. C'est pas,
enfin, par 19h, on ouvre tout ça.
Il y a plein de choses à regarder à la plume aussi, voilà. Notamment des bouquins. L'entrée est à prix libre, voilà, tout ça, ça va dans le fonctionnement évidemment de la librairie autogérée.
Voilà, en la soutien au local et à la CGA, vu qu'il y avait aussi pas mal d'amendes suite au à la mouvement loi travail et différentes arrestations, etc. Donc voilà, ça fait un peu de soutien pour le groupe. Voilà, puis on vous présentera voilà, en début de soirée un peu toutes les commissions, hein, le front de lutte syndicale, antiraciste, antipatriarcal et le front jeunesse. Voilà, ainsi que la commission vie du local pour l'organisation des activités. Voilà, donc après, ce on vous le rappelle, puis on le vous redira vendredi, mais du coup, ces commissions et ces produits sont ouverts du coup, aux sympathisantes et sympathisants. Voilà, il n'est pas obligé d'adhérer à la CGA pour pouvoir participer activement à ces commissions. On vous expliquera tout ça du coup vendredi soir. Et puis, vous avez commencé à vous parler aussi de la grève, forcément, de jeudi prochain, le jeudi 15 septembre, avec un rendez-vous à 11h à la manufacture des tabacs. Et le 17, du coup, une activité à la Plume Noire, donc la librairie, pour faire la rentrée aussi d'activités là-bas avec l'invitation qui a été faite par des personnes qui s'occupent du site Notre École, N-A-U-T-R-E, voilà, sur des techniques pédagogiques alternatives. Ils viendront présenter le site, le petit magazine, et puis du coup parler un petit peu de tout ça. Ce sera suivi du coup par le pot de rentrée de la librairie, comme on fait un peu d'habitude. À partir de 19h, on vous invite à l'activité avant pour après boire un petit coup, et puis si tout se tourne bien, eh ben, il y aura avant tout ça un repas de quartier Place Colbert, mais on vous tiendra au courant voilà, si ça peut se faire ou pas le 17 aussi. Donc voilà, bah, écoutez, on va vous laisser
Pour cette
compagnie,
première émission,
voilà.
Elle est bien remplie, non ?
Voilà, de la lumière du frigo, puis en plus de vendredi, voilà, on vous invite aussi samedi à la permanence de la librairie de 15h à 19h au 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse.
Et le mercredi ?
Et le mercredi 17-19 aussi.
Voilà,
donc,
tout
voilà.
Est dit.
Et eh ben, on vous lance le générique pour patienter jusqu'à la lumière du frigo.
Allez, à mercredi prochain.
Bonne soirée.
À tous. Salut.